Bonjour, dans ce MOOC, nous allons voir comment les réseaux sociaux ont bouleversé le monde de l'information.
Il était annoncé depuis plusieurs semaines, il est maintenant en ligne. Le MOOC de journalisme porté par Rue 89 et Global Editors Network en partenariat avec First Business a été lancé ce mercredi. Il s'agit donc d'un massive open online course, d'un cours de masse ouvert et en ligne consacré au journalisme. Chacun peut s'y inscrire gratuitement. Au programme de cette formation intitulée « Informer et communiquer sur les réseaux sociaux », 5 semaines d'enseignement, des vidéos, des glossaires, des quiz. Et pour celles et ceux qui payent afin d'accéder à la 5e semaine de cours, une attestation de formation sera fournie. En parlant de formation, nous serons à Abidjan du 2 au 12 mai prochain pour Mondoblog Abidjan, le grand rendez-vous annuel des blogueurs de notre plateforme francophone. Restez avec nous. En fin d'émission, je vous donnerai quelques infos sur nos rendez-vous publics dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des médias, une émission sous le signe des data, des données aujourd'hui.
Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Il y a quelques semaines, nous étions en Turquie. Vous vous en souvenez si vous avez suivi notre reportage sur la liberté de la presse en danger dans ce grand pays. Nous avons profité de la présence des équipes de journalisme plus à Istanbul pour rencontrer les deux fondateurs de cette start-up de journalisme. Nicolas Kaiserbril et Pierre Romera incarnent à plus d'un titre le journalisme de demain. Ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle le data journalisme, c'est-à-dire le journalisme de données. Nous serons avec eux juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Dans presque une heure, Francis Pisani nous raconte une fable, celle des camions-restaurants ou comment Twitter a bouleversé la restauration en Californie.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Et on commence, comme chaque semaine, avec la chronique Étreinte Digitale. Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu souhaites aujourd'hui nous parler d'une personne qui n'est pas encore très connue, en tout cas en France et peut-être même pas aux États-Unis, qui s'appelle Tristan Walker.
Donc, Tristan Walker est entrepreneur. Son entreprise, Walker & Company, vend des kits de rasage par abonnement. Pour $30 par mois, vous pouvez recevoir à domicile un bon rasoir, un blaireau, des produits pour la peau. Ça s'appelle Bevel et ça cartonne auprès des consommateurs et des investisseurs ici aux États-Unis. Tristan Walker a en effet levé $2.4 million. Venons-en à son histoire. Son histoire révèle ce que le système de la Silicon Valley permet de meilleur, autant que ce que la Silicon Valley ne réussit pas à être ni à faire. Donc Tristan Walker a 30 ans, il est afro-américain. Il a été élevé dans le Queens à New York par une mère célibataire. Il vient donc d'un milieu très modeste. Il a obtenu une bourse pour aller faire des études dans un pensionnat très chic en Nouvelle-Angleterre. Puis il a fait de bonnes études grâce à une nouvelle bourse à la Stony Brook University. Et puis, il a voulu faire de l'argent. Il voyait trois options par rapport à ses origines. Devenir artiste, devenir athlète ou aller à Wall Street. Et c'est là qu'il est parti travailler pendant 2 ans comme trader. En quête d'opportunités plus passionnantes, il part à Stanford à 24 ans pour faire un MBA à la Business School. Quand Tristan Walker arrive ici, il découvre le monde de la Silicon Valley. Un monde fait d'entrepreneurs autant que d'entreprises qui font des semi-conducteurs. Mais il voit aussi tout ce qui ne va pas ici dans la Silicon Valley. Par exemple, qu'il y a très peu d'étudiants en informatique, latino ou afro-américains dans les startups de la Silicon Valley. Donc il lance Code 2040, c'est une association qui, le temps d'un été, va placer les jeunes étudiants informatiques venant de minorités dans ces entreprises qu'on aime beaucoup ici. Lui-même va arriver à décrocher un stage chez Twitter, puis à se faire embaucher par Foursquare. Tristan Walker va ainsi être un des premiers employés de Foursquare et s'occuper pendant longtemps du développement de l'entreprise. Mais l'histoire de Tristan Walker devient encore plus intéressante à partir de là. À l'été 2012, Tristan Walker a rejoint le fonds d'investissement Andreessen Horowitz pour devenir ce qu'on appelle entrepreneur en résidence. Il a rapidement réalisé qu'il fallait qu'il commence par quelque chose d'authentique, un problème que lui a connu et qu'il est donc beaucoup mieux placé pour résoudre. Et là, il fait 2 constats. 1. Que la culture black, latino, asiatique a un important impact culturel aux États-Unis. Que c'est des populations qui adoptent très rapidement les nouvelles technologies, mais qu'elles ne sont pas du tout servies par les entreprises qui veulent créer ces services très cool que sont Facebook, Twitter et consorts. Et de même, ils réalisent que les entreprises de biens de grande consommation, les shampoings, les crèmes, etc., ne servent pas du tout ces populations. Donc, Tristan Walker décide de lancer sa propre entreprise. Il veut, avec Walker et compagnie, faciliter la beauté et la santé aux peaux de couleur, utiliser le e-commerce, les technologies, l'analyse de données pour créer des expériences formidables et développer des services annexes. Par exemple, tout un service d'éducation à comment bien se raser. Tristan Walker estime que c'est un vrai problème, lui qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas de papa pour lui montrer comment se raser sans créer d'horribles boutons de rasage par rapport à sa peau, par rapport à sa pilosité, par rapport aux services qui existaient sur le marché pour lui. Voilà donc l'histoire de Tristan Walker. C'est un mini conte de fées, mais qui révèle très très bien aussi toutes les limites de la Silicon Valley. Et assurément, Tristan Walker est un personnage qu'il va falloir suivre dans les prochaines années parce qu'il ne va pas s'arrêter, je vous assure, au kit de rasage par correspondance.
Merci Marie-Catherine, on peut retrouver cette histoire et ce portrait de Tristan Walker sur ton blog de l'Atelier des Médias en version audio et en version texte. On peut également te lire sur ton blog Étreinte Digitale hébergé par Le Figaro. On peut enfin découvrir ton site Newstapes où tu déclines l'actualité chaque semaine, chaque jour, selon trois tempos. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Atelier@rfi.fr.
Where you get the best of both worlds, real people and virtual people.
Ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton d'édition du jour. Les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias.
Voilà, ça enregistre.
Oui.
Est-ce qu'on raconte?
Bonjour Nicolas Kaiser-Bril.
Bonjour.
Tu es un des deux fondateurs de J++, tu es chef d'entreprise, donc journaliste et développeur informatique, c'est ça?
C'est ça.
Bonjour Pierre Romera.
Salut.
Toi aussi, tu es chef d'entreprise, tu es développeur informatique et tu touches également au journalisme, bien que ce ne soit pas ta formation et pas ta spécialité, c'est ça?
C'est ça.
Vous incarnez tous les deux plusieurs tendances importantes du journalisme, le data journalisme, c'est-à-dire le journalisme de données, le journaliste codeur également, le journaliste qui développe en informatique, capable de créer ses propres outils, et également le journaliste ou le journalisme entrepreneur. Je veux bien qu'on s'arrête d'abord sur cette première notion et vous pourriez commencer par expliquer ce qu'est J++. Nicolas.
Alors, je pense le plus simple, c'est de raconter l'histoire de J++. En fait, on travaillait avec Pierre chez OVNI et on a quitté OVNI en 2011 et on voulait absolument travailler ensemble parce qu'on aimait bien travailler ensemble. Et on a été voir les médias traditionnels de Paris, des grosses rédactions, en leur disant bon, « ben, bonjour, on aimerait bosser ensemble, est-ce que vous nous embauchez ?» Et la plupart nous ont dit « ok, on veut bien vous embaucher, mais alors toi le journaliste, tu vas aller travailler avec les journalistes là-bas, et puis toi le développeur, tu vas aller travailler là-bas avec les développeurs. » Donc on leur a fait « bah non, c'est pas ça le concept. » Et du coup, bah, par la force des choses, on a créé Journalism++, vraiment en voulant travailler ensemble sans forcément avoir de business model en tête.
En fait, ce que veut dire Nico, c'est que c'est presque un accident qu'on ait créé cette boîte et qu'on travaille ensemble, puisque au tout début, on n'avait pas forcément vocation à créer une boîte et essayer de faire quelque chose de nouveau.
Et journalisme plus plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc en particulier?
Alors en fait, c'est une référence. Donc le plus plus à la fin de journalisme, c'est une manière en programmation de dire plus 1, c'est-à-dire une valeur plus 1. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu de mots avec le journalisme. On va faire un journalisme un peu accéléré, donc on va faire plus 1.
En partant de là, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on gagne de l'argent à un moment donné. Et du coup, on vend des prestations de services à des entreprises qui ont besoin de visualiser leurs données, d'analyser leurs données, de faire des enquêtes ou des formations. Et soit dans ce cadre-là, on fait des enquêtes, soit à côté, avec l'argent qu'on a réussi à dégager, on fait des enquêtes de journalisme. Mais on s'est, y a pas de, on s'est pas posé en faisant la société, on s'est pas posé la question de quel était le service qu'on proposait.
Oui, en fait, ce qu'essaye aussi de dire Nico, c'est que tout ça est arrivé, encore une fois, par accident. C'est-à-dire que on est arrivé dans un marché où il y avait tout à faire, il y avait plein de trucs à expérimenter, et du coup, on a essayé de construire notre boîte autour de cette idée-là, en disant, ben, on a besoin d'argent pour financer ces projets, mais on va essayer de le faire un peu différemment des autres agences, et à la fois, on va donc développer ces projets individuellement, vers des nouveaux formats, vers des nouvelles technologies, etc.
Est-ce que c'est pas compliqué de concilier journalisme et entreprise à but commercial? Vous parlez de clients, vous parlez de marché.
C'est extrêmement compliqué parce que on peut pas travailler pour des sociétés avec lesquelles dont on partage pas les valeurs. On peut pas travailler demain pour une entreprise qui fabrique des cigarettes ou des armes, alors que d'autres agences qui ont pas du tout cette dimension journalistique, ça leur posera aucun problème.
Alors on va parler plus longuement de ce qu'est le data journalisme. On va parler également plus longuement de ce que vous produisez, parce que ce sont des choses souvent extrêmement intéressantes. C'est une nouvelle manière de faire du journalisme. Avant ça, vous avez assis votre entreprise sur un manifeste en 10 points. Il y a plusieurs médias qui se lancent avec un manifeste. Je pense à Libération, on recevait il y a pas très longtemps des personnes de Libération qui s'est lancé également sur un manifeste qui d'ailleurs n'a pas été totalement respecté avec le temps, avec l'évolution. Je vais lire certains des points, je veux bien que vous nous les expliquiez, que vous les commentiez. Le premier point, c'est: nous sommes des nerds, donc des amateurs d'informatique, on va dire. Nous sommes des journalistes, développeurs, designers ou chefs de projet qui partageons une passion commune pour l'information et les nouvelles technologies. Ça, c'est simple, mais ça définit bien vos différentes casquettes qui sont soit celles de certains d'entre vous, soit plusieurs casquettes en même temps pour toi, Nicolas, qui en a 3 ou 4 en même temps.
Oui, c'est la raison pour laquelle on a écrit ça, c'est que souvent dans les rédactions traditionnelles, on a le journaliste qui est celui qui produit l'information, et puis tous les autres qui tournent autour, soit pour apporter l'argent, soit pour relire, soit pour faire des photos. Et nous, notre point de départ, c'est de dire, quand on fait une enquête, c'est une équipe qui l'a fait, c'est pas juste un journaliste et des gens qui l'aident. C'est vraiment le développeur chez nous peut tout à fait proposer un sujet, commencer à travailler dessus et aller demander de l'aide après aux journalistes.
C'est une manière aussi d'encourager l'innovation, puisqu'en fait, nos développeurs innovent aussi de manière éditoriale, en fait.
Deuxième point du manifeste, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Nous croyons que la présentation de l'information peut être améliorée significativement en sortant de la narration traditionnelle utilisée dans la presse, la radio et la télévision. Pierre.
Alors, on est allergique à aucun mode de narration. Mais ce qu'on essaye de dire par là, c'est que on ira en priorité vers les nouvelles manières de raconter des histoires, puisque nous, c'est ce qu'on adore, raconter des histoires, et si on peut le faire de manière un petit peu originale, on arrivera en courant.
Qu'est-ce que c'est des nouvelles manières de raconter des histoires, Nicolas ?
Le principal problème qu'on voit dans les médias traditionnels, c'est que il y a beaucoup de journalistes qui sont bloqués à l'article, au sujet de radio de 3 minutes ou de télé, pareil, très court. Et ça, c'est très bien, c'est une manière de raconter une histoire, mais si on a besoin de traiter des sujets extrêmement longs sur lesquels on a énormément d'informations, dans ce cas-là, le meilleur moyen de faire passer le message, c'est d'avoir une base de données, par exemple, qui présente tous les éléments qu'on a trouvés, et ensuite l'article va venir en plus pour introduire le problème. Ça, typiquement, c'est une nouvelle manière de raconter une histoire. On peut aussi, par exemple, écrire un article, faire un jeu ou faire un quiz où le lecteur va s'interroger sur les problématiques, ce qu'il aurait fait aussi avec un article, mais de faire un quiz, c'est plus efficace. On n'est vraiment absolument pas bloqué par le format. On fait tout ce que nos développeurs, tout ce qu'on peut faire.
Nous croyons que le journalisme s'est échappé des rédactions, c'est pourquoi nous œuvrons à produire un journalisme de qualité en collaboration avec des institutions, des entreprises et d'autres organisations non médiatiques. Pierre.
C'est aussi pour parler de cette matière qu'on a aujourd'hui qui est assez neuve, c'est celle qui vient d'en bas, celle qui vient des utilisateurs, des citoyens, etc. Donc on n'a pas envie de se limiter à juste utiliser des matériaux qui viennent d'entreprises ou de gouvernements, on veut aussi... utiliser ce qui vient de blogueurs, ce qui vient de gens sur Twitter, sur Facebook, etc. Et donc, l'information est sortie des rédactions et on va aller la chercher là où elle est.
Notre métier, c'est d'ajouter de la valeur à l'information, soit en allant la collecter, soit en la validant, soit en la mettant en forme. Et pour ça, les salles de rédaction, c'est très bien, mais c'est juste une manière parmi d'autres d'ajouter de la valeur à l'information. Si demain, il y a des lycéens, n'importe qui a une idée, qui veut faire quelque chose de journalistique, on n'aura aucun problème pour aller l'aider, même s'il n'a pas de carte de presse.
Nous croyons à l'open source. Là, c'est un truc qui est plus technique. C'est un aspect qui est plus technique, mais qui, j'imagine, est très important pour vous et que vous devez expliquer. Pierre, qu'est-ce que c'est l'open source et qu'est-ce que ça veut dire « nous croyons à l'open source » ?
Alors, l'open source, c'est une pratique qui vise à mettre à disposition du public le code source des programmes qu'on fabrique. Donc, c'est vraiment nos recettes, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour travailler et quel est le résultat de notre travail ? Donc, pourquoi est-ce qu'on croit à ça ? il y a pas mal de philosophies avec lesquelles on est d'accord dans l'open source, notamment la transparence. Quand on fournit un service à un média et qu'il va ensuite le proposer à ses lecteurs, eh ben on veut que le lecteur puisse s'assurer que le dispositif mis en place n'ait aucun fonctionnement malicieux. Ça reste un des avantages apportés par l'open source. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques, hein. Ça coûte évidemment moins cher de faire de l'open source parce qu'on peut réutiliser ce qu'on a produit avant. C'est aussi une manière d'apporter quelque chose d'éducatif, c'est-à-dire aux gens qui vont lire notre code source, ils vont pouvoir apprendre quelque chose, ils vont pouvoir éventuellement pouvoir le reproduire. Et donc voilà, c'est tout un tas de philosophies qui sont assez raccord avec ce qu'on produit chez J++.
Ouais, c'est une mentalité, ça va même au-delà. Ça c'est vu que tout ce qu'on fait est transparent, ça nous force à avoir un niveau de professionnalisme en permanence parce qu'on sait que ça pourra être lu par d'autres. Et on est open source au niveau du code parce que c'est notre cœur de métier, mais quand on fait des enquêtes, on publie aussi toutes les informations qui nous permettent d'arriver à nos conclusions.
En quoi vos méthodes de travail, on n'en a pas tellement parlé, vous êtes 7 maintenant à J++ dans 2 pays, en quoi est-ce qu'elles peuvent être exemplaires ou en quoi est-ce qu'elles peuvent être appliquées par des médias traditionnels, des médias plus anciens ? Nicolas ?
Nous, on aimerait beaucoup qu'il y ait des médias traditionnels ou en tout cas avec plus de ressources qui appliquent les mêmes méthodes. C'est travailler par projet où le responsable du projet, celui qui va le faire vivre de A à Z, c'est le chef de projet, c'est pas le journaliste. Et le boulot du chef de projet, ça va être de spécifier précisément ce qu'on va faire, combien ça va coûter, aller chercher les compétences qu'il faut pour mener à bien le projet. Et ces compétences peuvent être des journalistes, des développeurs, des designers, etc. Et ouais, le mener à bien jusqu'à la publication, qui peut aussi passer par des partenariats avec d'autres médias, d'autres personnes qui vont diffuser l'information.
Il faut pas non plus se méprendre, même si ça nous ferait plaisir que ça devienne... un exemple, notre manière de travailler. Il faut aussi garder en tête que nous, on est privilégiés puisque dès le début, avec Nico, on s'est trouvé. Lui, avec son côté journaliste un peu développeur, moi, avec mon côté développeur un peu journaliste. Et donc, du coup, on a pu rapidement produire des objets, des dispositifs qui correspondaient à ce qu'on voulait faire et à ce que le marché attendait. Et ça, c'est pas forcément évident de trouver ce binôme et même de le faire grandir. Oui, même si on serait très heureux de le voir se reproduire en France, dans d'autres rédactions ou même dans d'autres entreprises, il n'est pas non plus facile à reproduire.
Mais vous pensez que des grands médias qui emploient des dizaines, voire des centaines de journalistes pourraient implanter des dispositifs de production comme les vôtres dans leur rédaction, que ce ne soit pas une exception ou juste pour certains projets? Ça pourrait être un mode de fonctionnement normal de rédaction ou ça devrait l'être, Nicolas?
En fait, c'est déjà le cas. Au Royaume-Uni, il y a Trinity Mirror qui fait depuis un an et demi. Ils ont créé deux espèces de start-up. Ils ont pris des équipes chez eux de 5-10 personnes. Ils leur ont dit, voilà, vous allez faire un nouveau média. Donc le premier, c'était Us versus Them, qui était une espèce de BuzzFeed très ludique, mais aussi avec des développeurs qui travaillent avec des journalistes et ils créent des espèces de jeux d'actualité.
BuzzFeed, c'est un site d'information américain qui se caractérise par le partage d'images qui vont buzzer, qui vont être extrêmement partagées ou de contenus qui sont dédiés à être le plus partagé possible.
C'est ça, ouais, c'est de l'information qui paraît light, mais en fait, ils sont tout à fait capables de faire des sujets très sérieux, c'est juste qu'ils vont les traiter d'une manière qui fait qu'on a envie de les lire. Et donc, ils ont fait ce premier site, Us versus Them, ça a très bien marché, et ils ont recommencé avec un nouveau site qui s'appelle Amped, où là, ils sont spécialisés dans le data journalisme, mais on retrouve ça aussi, il y a Die Zeit à Berlin qui vient de créer une cellule d'investigation, mais basée sur les méthodes du data journalisme. Donc, il y a pas mal de médias qui vraiment s'y mettent, malheureusement pas en France.
En Suisse aussi?
Oui, en Suisse, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Il y a Watson.ch, qui est un nouveau site d'actualité qui a été créé, encore une fois, en reprenant ces concepts de travailler par projet. Il y a Neue Zürcher Zeitung, qui est un média à Zurich, le média de référence en Suisse, qui est aussi en train de développer sa cellule data journalisme. Il y a Tages Anzeiger, qui est un autre gros média là-bas, qui, encore une fois, prend des chefs de projet qui sont de manière intéressante, qui sont pas les journalistes les plus expérimentés de la boîte, qui sont des gens qui ont à peu près notre âge, et qui sont placés dans une position de chef de projet, charge à eux d'aller embaucher les développeurs, d'aller chercher les journalistes dans les rédactions pour créer des choses nouvelles.
On va marquer une courte pause. Il nous reste beaucoup de choses dont on doit parler. On doit parler plus précisément du data journalisme. On l'a évoqué rapidement, mais il y a plein de choses à dire dessus et c'est votre spécialité. On va aussi parler, donner des exemples de types de production que vous faites. Il y en a énormément, mais on va se cibler certaines. On se retrouve dans 3 minutes 30. À tout de suite.